Focus PME, le podcast des experts de la CPME.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Pour ce premier numéro, nous allons détailler le nouveau statut de l'entrepreneur individuel encadré par une loi de février dernier. Et nous allons le faire avec un expert de la CPME, Bruno Dondero. Bonjour professeur.
Bonjour Bertrand Lenôtre.
Vous êtes donc professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocat associé du fameux cabinet CMS Francis Lefebvre Avocat et président de la commission juridique de la CPME. La loi du 14 février 2022 a donc introduit un nouveau statut pour l'entrepreneur individuel. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors on parle d'une loi qui concerne entre 3 et 4 millions d'entrepreneurs indépendants en France. Sont concernés tous les secteurs en réalité, commerçants, artisans, agriculteurs, toutes les professions libérales, ce qu'on appelle auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs, tous les entrepreneurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en société, sont concernés par ce nouveau statut. Et l'apport essentiel de ce nouveau statut, c'est que jusqu'alors, une personne physique, quelqu'un qui n'était pas en société, lorsqu'il exerçait une activité indépendante, eh bien cette personne engageait tout son patrimoine. C'est-à-dire que, sauf des exceptions particulières qui visaient, depuis la loi Macron de 2015, la résidence principale, eh bien, c'était la principale de ces exceptions, sauf exception, on engageait tout son patrimoine et ça voulait dire qu'on exposait l'ensemble de ses biens au risque de l'entreprise. L'apport essentiel de cette nouvelle loi, c'est qu'elle dote tout entrepreneur individuel de deux patrimoines et de cette manière, on va limiter les risques qui pèsent sur cet entrepreneur.
En quoi consistent ces deux patrimoines concrètement ?
Eh bien, l'idée, c'est que, à côté du patrimoine dont toute personne physique est titulaire, qu'on peut appeler du coup le patrimoine personnel, l'entrepreneur individuel a désormais un patrimoine professionnel qui apparaît, c'est-à-dire qu'on aura ces personnes physiques qui auront deux patrimoines. Et ce patrimoine professionnel va réunir tous les biens, tous les droits, mais aussi toutes les dettes qui sont liées, qui sont utiles, en réalité, c'est le critère, à l'activité professionnelle. Et ce critère d'utilité, qui n'est pas défini plus que cela par la loi, ce critère, il est important parce que on comprend que si un bien ou si une dette est utile à l'activité professionnelle, alors ce bien ou cette dette est localisé dans le patrimoine, est situé dans le patrimoine professionnel. Si le bien ou si la dette n'est pas utile à l'activité professionnelle, le bien ou la dette va dans l'autre patrimoine, dans le patrimoine personnel. Et il faut bien comprendre que ces deux patrimoines sont en principe étanches. Je vais prendre un exemple très simple, celui de la résidence secondaire de l'entrepreneur individuel. Cette résidence secondaire, avant cette loi, un créancier professionnel, un fournisseur par exemple, ou un client qui avait subi un préjudice, eh bien, cette personne-là pouvait saisir tous les biens de l'entrepreneur individuel, donc par exemple sa résidence secondaire. Eh bien, désormais, le fournisseur impayé, le client insatisfait, par principe, n'a plus accès qu'au patrimoine de l'activité, c'est-à-dire au patrimoine professionnel. Et dedans, eh bien, il ne va pas trouver la résidence secondaire puisqu'elle est dans l'autre patrimoine.
Justement, cela change-t-il quelque chose pour les créanciers comme le fournisseur impayé ou le client qui subit un préjudice ?
Oui, ça change quelque chose parce que ces personnes-là se retrouvent face à un débiteur qui a, du coup, non plus un seul patrimoine avec tous ses biens, mais deux patrimoines. Et par principe, ces créanciers-là n'ont accès qu'à un seul de ces patrimoines. Du coup, il faut comprendre que ces créanciers sont en concours avec moins de créanciers. Les créanciers professionnels, appelons-les comme ça, n'ont plus accès qu'au patrimoine professionnel, mais ils n'ont plus la concurrence des créanciers dont le droit n'est pas lié à l'activité professionnelle. Par exemple, le banquier qui est en train de demander à l'entrepreneur individuel le paiement d'un crédit à la consommation, eh bien, lui, il n'est pas en compétition, il n'est pas en concurrence avec les créanciers professionnels parce que lui, il va, le banquier pour ce remboursement d'un crédit conso, eh bien, ce banquier, lui, il ne peut cibler que les biens qui sont dans l'autre patrimoine, dans le patrimoine personnel.
Est-ce qu'on peut déroger à tout ça ?
Alors, on a la possibilité de donner aux créanciers professionnels un accès aux biens qui sont dans le patrimoine personnel. Mais la loi a voulu que cela se fasse d'une manière qui n'est pas si simple que cela, qui est assez formalisée. Il y a un délai de réflexion qui est laissé à l'entrepreneur individuel. On ne peut le faire que pour un créancier donné, pour un engagement donné. Il faut remplir un document particulier avec des formes prescrites par décret. Donc, on a quand même voulu que les choses se fassent d'une manière qui ne conduise pas à un contournement systématique par certains créanciers du nouveau dispositif.
Une dernière question. Est-ce que la loi s'intéresse à l'évolution de l'entrepreneur individuel ?
Alors, la loi prévoit des règles particulières pour le transfert du patrimoine professionnel de notre entrepreneur individuel et notamment pour l'apport qu'il pourra faire à une société. Mais l'idée qu'on ne retrouve pas formellement dans la loi, mais qui a sans doute guidé le législateur, c'était que ce statut soit un statut pour commencer une entreprise. On peut penser que l'entreprise, quand elle va prendre de l'importance, quand elle va s'organiser davantage, va aller plutôt vers la forme d'une société. Mais encore une fois, cela ne se retrouve pas, on ne nous dit pas que c'est un statut qui serait valable pendant les 3 ou 5 premières années de vie d'une entreprise. On peut quand même penser que, encore une fois, une entreprise importante ne va pas rester toute sa vie sous ce statut.
Merci beaucoup, professeur Bruno Dandero, pour votre éclairage sur le nouveau statut de l'entrepreneur individuel.
Je vous en prie. Merci.
À bientôt pour un nouvel épisode de Focus PME, le podcast des experts de la CPME. N'hésitez pas à vous abonner et retrouver plus d'informations sur cpme.fr.